BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles. Nous sommes lundi 8 avril, nous sommes en direct à la radio, à la télé, sur le web, tous les jours, de 10h à midi et puis à n'importe quelle heure en podcast. On salue tous ceux qui nous écoutent depuis l'étranger. Au programme du jour, avant d'aller rejoindre Aude du côté de Euronext, nous allons parler immobilier. Quel budget pour gagner 2 lettres au DPE ? Sur le DPE, c'est Arnaud Accard, le PDG d'Immo Direct, qui va venir nous répondre. La question du jour, c'est quand déclarer ses impôts en 2024 ? L'agenda fiscal et les bons conseils de notre fiscaliste Olivier Jeanneret du cabinet Arsène d'ici quelques minutes. On investit dans le street art, dans l'art urbain aujourd'hui, dans Tout pour investir. Comme dans la musique, il y a une French touch et cette scène urbaine de l'art urbain est très bankable à l'international. On va parler de plusieurs artistes, notamment Invader, JR, 2 artistes majeurs. On va se demander comment ce marché qui était une niche est devenu un des piliers officiels de l'art contemporain. On sera avec la maison Arcuriel. Tout au long de cette émission, il y a vous. Vous continuez à nous écrire, comme Julien, comme Loïc. Pendant ce direct, les adresses, c'est direct@bfmbusiness.fr ou bien sur LinkedIn. Je vous lis également, je suis connectée. Nous allons rejoindre Aude Kersulek du côté d'Euronext.
Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé, prévoyance. Avec AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
Cher Aude, on vous retrouve depuis Euronext pour faire le point sur la séance en cours côté CAC 40.
Et on est toujours en hausse, hein, maintenant 2 heures après l'ouverture, plus 0,4%. C'est un peu pareil en Europe d'ailleurs. Une hausse assez homogène ce matin après la forte dégringolade quand même. Vendredi, on avait perdu plus de 1% sur le CAC 40. C'était même la plus forte baisse depuis le début de l'année. Là, on reprend un peu de poil de la bête. Alors, du côté de la composition de l'indice parisien, on a quand même des hausses dans l'industrie. Renault, Stellantis ou encore Thales qui monte entre 1 et 2%. Et si Luxottica aussi en baisse, on a en revanche Vivendi ou encore le luxe, hein, L'Oréal, LVMH qui est pas très bien orienté, qui est en baisse de 0,2%. Michelin notamment aussi. Alors c'est plus lié à une dégradation de la part d'un analyste, Jefferies, qui passe sa recommandation à sous-performance contre conservée auparavant. Sur le SBF 120, la valeur qui se démarque, c'est Atos. On bondit maintenant de 25%. On dépassait les 2 euros. On est maintenant à 2,42 euros pour cette valeur. Alors forcément, il y a des petites avancées dans le dossier Atos. D'abord, il y a un actionnaire qui se joint, l'actionnaire principal, Wattler Butler, qui rejoint le dossier OnePoint pour la restructuration d'Atos. Ça peut peser, ça peut jouer. Et puis, on a aussi Dassault Aviation qui pourrait être acquéreur de certaines parties d'Atos. Voilà ce qui fait monter le marché sur cette valeur. Et puis sur le SBF 120, à la baisse, on retrouve des valeurs comme Soitec ou encore Virbac. On note aussi Believe, ça c'est hors SBF. On est en baisse de plus de 10% maintenant, Believe. Alors on sait que la valeur doit sortir de la côte parisienne, mais qu'elle cherche pour cela un consortium. Et bien ce ne sera pas Warner, a-t-on appris ce matin. Donc forcément, ça rassure pas forcément les investisseurs. On est à 14,92 euros pour la valeur. Donc, Billy, voilà pour le marché parisien. On est en petite hausse ce matin, 0,4%, tout juste sous les 8100 points, Lorraine.
Merci, Aude, pour ce point marché. Maintenant, c'est l'heure de votre histoire.
Tout pour investir sur BFM Business.
On parle avec vous ce matin, Aude, de Total Energy, qui est à un de ses plus hauts historiques. C'était le cas la semaine dernière. Et pour aujourd'hui, eh bien, vous nous emmenez sur les rives du lac Léman.
Oui, en Suisse. Alors, pas exactement finalement sur les plages de Genève, mais plutôt du côté de l'aéroport, dans un immeuble de bureaux près de l'aéroport. C'est là que sont logées 2 filiales de Total Energy, très discrètes. Tout ça et TGP, c'est leur nom. Ce sont 2 filiales dans les négoces de matières premières, pétrole, gaz et électricité. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que Total Energy n'est pas connu pour être un négociateur de matières premières. On connaît plutôt pour cela Glencore, Glencore ou encore Vitol. Mais en plus donc, de ces activités d'extraction de pétrole, de distribution, de raffinage, c'est quand même une corde à son arc qui lui permet d'avoir une activité très rentable. C'est un journal suisse qui a mené une enquête, Le Temps, qui s'est penché sur cette question. Il a entre autres épluché le rapport annuel de Total Energy de 2023, 600 pages. Tout de même, il y a quelques petites lignes qui nous apprennent un petit peu plus sur la taille et la rentabilité de cette activité, donc de négoce et de trading finalement. Tout ça, c'est tout de même 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023, 3 milliards d'euros de bénéfices. Ça veut dire que ça contribue à hauteur de 15% du bénéfice annuel de Total Energy. Donc c'est pas négligeable. Et même dans les années difficiles, c'est une activité qui a continué à rapporter à l'entreprise, qui a permis notamment de minimiser ses pertes. Ça a été le cas pendant le Covid. Donc c'est une activité alors assez secrète, mais c'est le cas dans le négoce de matières premières. C'est vraiment pas lié à Total Energy. C'est basé en Suisse parce que c'est un haut lieu de commerce de matières premières. Et puis, c'est une diversification dans la chaîne de valeur qui est aussi bienvenue pour les investisseurs de cette entreprise. Alors, c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément besoin d'être assurés. Total Energy, c'est une valeur qui, en ce moment, est sur ses plus hauts historiques. On est à 67 euros encore ce matin. Mais en tout cas, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez retrouver l'enquête dans le journal Le Temps. Donc.
Merci beaucoup, Aude, pour cette histoire, pour ce résumé de cette enquête sur Total Energy. Cette chronique est à retrouver en podcast et en replay sur notre site BFM Business. À demain, Aude, pour continuer à couvrir ce qui se passe du côté de nos bourses européennes et au-delà. C'est l'heure de parler immobilier. Restez avec nous juste après cette rapide pub.
Tout pour investir. La place de l'immo.
La place de l'immobilier tous les jours, elle est centrale dans Tout pour investir. En deuxième partie d'émission, on se retrouve pour faire le point sur les sujets qui vous concernent en tant qu'investisseur particulier ou wannabe investisseur. Et aujourd'hui, c'est Arnaud Accard qui est avec nous. Bonjour Arnaud.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes le PDG d'Immo Direct. On a pas mal de sujets prévus avec vous. D'abord, on va faire un point sur le marché de la location. Nous allons également parler DPE, puisque j'ai promis depuis le début de l'émission que vous alliez nous donner une réponse à quel budget faut-il pour descendre, ou remonter plutôt, de 2 lettres dans le DPE. Et puis, on va parler globalement de rénovation énergétique avec vous. D'abord, petit sentiment de marché, si vous voulez bien.
Le marché locatif est tendu, je ne vous apprends rien. C'est lié à la baisse des transactions d'un côté, donc forcément moins de propriétaires occupants et plus de candidats locataires. Mmh. Et avec une offre qui... donc une augmentation de la demande et puis une offre qui baisse. Alors pourquoi elle baisse? Parce qu'il y a moins de construction, parce qu'il y a moins d'investisseurs, parce que les banques ont mis des critères qui limitent l'investissement locatif. Enfin, il y a l'inflation, il y a tout un tas de raisons qui font que effectivement on est sur un marché assez tendu. Aujourd'hui, on a 2 chiffres qui sont vraiment parlants en termes de dossiers de location. Donc quand on publie une annonce, en moyenne, par rapport à il y a un an, on a plus 300% de dossiers de location. C'est-à-dire que quand on avait 10 dossiers, maintenant on en a 30. Donc forcément, quand il y a 30 dossiers sur une annonce, ça fait 29 déçus et ça, c'est pas bon. Et puis un deuxième chiffre, la durée moyenne des baux, ce qui explique aussi cette rotation qui baisse, en fait, a aussi augmenté environ de 30 à 33%. C'est-à-dire qu'avant, on avait une durée moyenne, meublé, non meublé, de 30 mois et on s'approche des 40 mois. Donc les locataires, en fait, restent en place.
Les locataires restent où ils sont. Bon, sans surprise, cette immobilité, on la commente, on la déplore parfois avec Marie Cœur de Roy. Les gens ont du mal à se loger. Est-ce que vous pensez que ça va pouvoir s'améliorer? On parle beaucoup des Jeux Olympiques comme un point de blocage, en tout cas à très court terme. Est-ce que vous avez déjà dans votre boule de cristal des meilleures nouvelles, peut-être pour la rentrée de septembre?
Oui, alors le phénomène Jeux Olympiques, effectivement, n'arrange rien. Hein, puisqu'il y a beaucoup de propriétaires qui, quand le locataire s'en va, bloquent le logement en se disant qu'il va faire, un gros chiffre d'affaires pendant les Jeux Olympiques. Donc ça ne s'arrange pas. Alors oui, il y a quand même des signes qui sont plutôt encourageants, hein, avec des taux qui baissent, des banques qui se remettent à prêter, des affaires aussi à faire dans le neuf, parce que les promoteurs ont aussi des invendus, mais là, pour des investisseurs qui pourraient avoir des moyens, ça peut être intéressant. Voilà, donc on espère qu'effectivement, deuxième moitié de 2024, tout ce marché repart. Et de toute façon, il va falloir qu'il reparte parce qu'il faut bien loger nos compatriotes.
Bon, soyons pro-business. Un des points de blocage également qui explique cette situation, les gens restent où ils sont quand ils ont la chance de pouvoir être logés dans des conditions, on va dire, contractuelles. Un des points bloquants, c'est évidemment la rénovation énergétique. Vous êtes un peu notre thermomètre aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire avec vous ce matin que, sans mauvais jeu de mots, le chantier démarre ?
Il démarre doucement et la faute, c'est vraiment, je vais mettre les pieds dans le plat, hein, c'est la faute du gouvernement, ne mâchons pas nos mots.
Ah, Marie n'est pas là, si on pouvait profiter pour ne pas faire trop de politique.
Non, mais c'est vrai que pour lancer un chantier comme ça, il faut avoir de la visibilité, il faut de la stabilité, il faut savoir combien on va dépenser pour combien ça va rapporter. Je me mets à la place du propriétaire bailleur. Et ce qui se passe, c'est que depuis début 2024, alors heureusement depuis un mois, j'ai l'impression que ça s'est un peu calmé, mais alors c'était toutes les semaines, il y avait une nouveauté. Hein. Donc au début on augmente ma prime rénov, après on enlève 1 milliard, on change encore une fois de plus les règles du DPE, on change les règles de mon accompagnateur Rénov. Enfin, toutes les semaines, il y avait une nouveauté sur le marché. Donc forcément, le propriétaire bailleur qui doit engager des fonds pour rénover, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait pour l'instant ? Il attend. Alors, il y a des chantiers qui démarrent, bien heureusement. Ouais. Nous, on pense que l'accélération, ça va vraiment être à partir du mois de juin.
Juin, pourquoi juin ?
Parce que juin, les gens vont se rendre compte que dans 6 mois, quelqu'un qui a un propriétaire qui a un G, s'il ne fait rien, Il va rentrer dans l'illégalité début 2025, parce que il change toutes les règles, mais par contre les interdictions, elles n'ont pas changé.
Oui, hein. Ce calendrier du DPE, lui, il est visible et stable.
Pour l'instant, ils l'ont maintenu, et je pense sincèrement qu'ils vont le maintenir. Il va peut-être y avoir 2-3 assouplissements, mais globalement, la feuille de route, elle est écrite et on ne devrait pas trop y déroger.
Bon, on va parler très concrètement de ce DPE. Le DPE, c'est un frein pour beaucoup. Enfin, en tout cas, la réduction de son DPE est un frein parce que ça coûte de l'argent. On va parler très concrètement du budget qu'il faut pour remonter dans l'alphabet de 2 lettres pour ce DPE.
Oui, alors effectivement, on a la chance de pouvoir sortir des chiffres. Pourquoi ? Parce que nous, on n'est pas restés les bras croisés et on a décidé fin 2023 de lancer une offre à destination des bailleurs de rénovation énergétique. Cette offre, elle comprend, je prends juste 2 minutes pour vous expliquer et pour voir ce que inclut les prix que je vais vous citer. Donc c'est un engagement de résultat de gagner de l'aide de DPE, c'est ça qui est important. C'est donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si, une fois qu'on a fait les travaux, on se rend compte qu'on n'a pas gagné les LED, on va faire d'autres travaux. Et ça, c'est inclus. C'est un prix fixe et figé, un devis qu'on peut faire immédiatement, qui est extrêmement important aussi. Et c'est l'accompagnement global, c'est-à-dire aller chercher les aides, être le tiers de confiance, donc à la fois le gestionnaire et à la fois l'entreprise de travaux. Voilà. Donc, sur la base d'aujourd'hui à peu près 120 dossiers, alors c'est pas encore 1000 dossiers, mais 120 dossiers, ça permet déjà de sortir des chiffres. Donc, pour gagner 2 lettres, en moyenne, ce qu'on a constaté, c'est que ça va coûter 9 940 euros. Donc, vous voyez, c'est des chiffres très précis.
2 lettres, 10 000 euros.
2 lettres, 10 000 euros.
Ça arrondit un peu.
Ouais. Et sur ces 10 000 euros, en moyenne, alors forcément, il y a des propriétaires qui vont avoir beaucoup plus d'aides que d'autres, mais en moyenne, c'est à peu près un tiers d'aide, c'est-à-dire que c'est un peu plus de 3 000 euros, 3 157 euros exactement.
OK.
Voilà. Et ce qu'on a constaté également, c'est qu'il faut, en moyenne, entre 2 et 3 gestes. Vous savez, on a, nous, identifié environ 7 gestes pour pouvoir rénover, d'un point de vue énergétique, un logement, hein, dans les parties privatives, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire appel à l'assemblée des copropriétaires.
Et dépendre de sa copro.
Voilà.
Ouais.
Et le geste, donc entre 2 et 3 gestes en moyenne pour gagner 2 lettres. Et donc le coût par geste est à un peu plus de 4 000 euros. Et donc sans les, enfin pardon, avec les aides, un peu moins de 3 000 euros, 2 812 euros exactement.
Donc je veux, si on essaye de voilà mettre des chiffres, de simplifier. Baisser ou remonter de 2 lettres, passer par exemple de E à C.
Non, de E. Alors nous, on s'attaque d'abord
on
au G.
On s'attend
au
pire.
Hein.
Donc on passe de G.
De G à E à et de e. F à D.
Déjà, c'est pas mal. Et ensuite, de F à D. On dit qu'il faut environ 10 000 euros pour réaliser ce saut en arrière.
Ouais.
Vous nous dites que si on essaye de chiffrer le coût d'un geste, c'est autour de 4 000 euros sans aide. Et avec les aides, car elles sont toujours là.
2 800 euros.
À peu près, voilà, 1 000 euros de moins.
Ouais.
Gros 1 000 euros de moins. C'est-à-dire que vous nous dites ça, c'est censé rassurer ceux qui nous écoutent ?
C'est pardon ?
C'est censé rassurer ceux qui nous écoutent ?
Bah, écoutez, oui, je pense que ce qui est extrêmement important pour un propriétaire bailleur, c'est d'avoir une solution pour sortir de ces interdictions. Parce que. Il y a le fait de ne plus pouvoir louer, mais il y a aussi le fait que tous ces logements F et G vont devenir vraiment les logements que plus personne ne va vouloir à la location. Et donc, ils vont se retrouver, entre guillemets, avec les mauvais dossiers de location. Parce qu'aujourd'hui, sur les sites de recherche, vous pouvez cocher la lettre de DPE. Donc, tout le monde peut bien réfléchir et se dire, ben, quand on va chercher un logement à louer, on ne va pas cocher G, on ne va pas cocher F. On va aller chercher des logements moins énergivores. Donc oui, je pense que c'est extrêmement important pour les propriétaires de pouvoir enfin mettre des chiffres, de savoir qu'il y a des acteurs privés qui se mobilisent et qui permettent de s'engager en fait sur ces travaux, parce que le problème des travaux c'est déjà de trouver les artisans, de trouver les aides, et puis surtout quand l'artisan s'en va et que ça marche pas, ben après c'est compliqué d'aller le chercher.
Voilà. Arnaud, vous nous rappelez quelques-uns des 7 gestes que vous avez identifiés, et puis après vous allez nous dire quels sont justement les gestes qui sont les plus courants dans les chiffres, une fois plus, hein, que vous avez brassé pour nous. Les 7 gestes, rappelez-nous.
Alors, les 7 gestes, il y a les robinets thermostatiques, le changement de fenêtre avec du double ou du triple vitrage, l'isolation par l'intérieur, les VMC, l'isolation par les combles, changement de chaudière quand c'est des chaudières individuelles et changement de ballon d'eau chaude avec des ballons thermodynamiques. Voilà les 7 gestes identifiés pour pouvoir faire une rénovation digne de ce nom.
On essaye toujours de gagner 2 lettres ou d'en perdre 2 plutôt. Quels sont parmi les gestes que vous nous avez listés les gestes, les 3 peut-être les plus courants, ceux que vous observez le plus, ceux qui occupent la majorité des artisans qui sont au travail?
Alors toujours pareil, hein, sur notre panel de 120 dossiers, ce qui revient le plus souvent, c'est le changement de robinet thermostatique. Alors, il y a plusieurs gammes de robinets thermostatiques, il faut aussi y faire attention.
Mmh.
Ensuite, vient, donc ça, c'est dans 59% des cas. Par contre, en termes de budget, forcément, c'est ce qu'il y a de moins cher, et ça pèse en moyenne 15% du budget de la rénovation.
D'accord.
Le changement de fenêtre, c'est dans 53% des cas. Et ça, par contre, ça pèse un gros budget dans le budget global, puisqu'on est à 38%. Et puis, le troisième geste qui revient le plus souvent, c'est l'isolation par l'intérieur, dans presque 50% des cas, 47%. Et c'est dans la globalité du budget, 25%.
Bon, on voit, les gestes les plus courants ne sont pas forcément les moins chers. Vous nous dites que la pose de double vitrage, c'est 50% des gestes, en gros, et plus d'un tiers du budget. Est-ce que ces travaux, selon vous, ces 3 gestes les plus courants que vous avez relevés, on rappelle sur Immo Direct, ce sont pour vous les gestes les plus intelligents ? Est-ce que c'est bien ceux-là sur lesquels... Est-ce que c'est rassurant que ce soit les 3 qu'on trouve le plus parmi les 7 que vous nous avez listés ?
Oui, oui, bien sûr. Nous, en fait, on a conçu un algorithme et une grille de tarification qui nous permet justement, à partir d'un DPE récent, de faire un devis immédiat. Et on a brassé avec des ingénieurs énergéticiens l'ensemble des paramètres. Et à chaque fois, on va sortir le geste qui a le rapport efficacité-coût le plus intéressant pour le bailleur. Alors je rappelle, hein, ce sont des budgets globaux sur des appartements. Il y a à la fois des studios et puis du 4 pièces. Donc forcément, tout ça sont des chiffres moyens et qui incluent l'ensemble de la prestation, aller chercher les aides, garantie de résultat, etc., etc.
L'isolation par l'intérieur dans un studio de 15 mètres carrés par opposition à l'isolation par l'intérieur dans un appartement de taille, on va dire, plus importante, c'est pas le même choix.
Non, c'est pas le même choix, et ça, c'est quand même une quelque chose de bien qu'avait le gouvernement, c'est justement de revoir les DPE sur les petites surfaces, ce qui nous permet d'éviter au maximum d'aller faire de l'isolation par l'intérieur dans les petites surfaces, parce que forcément, quand vous perdez un mètre carré à Paris sur un appartement de 15 mètres carrés avec un prix entre 10 et 15 000 euros du mètre carré, le coût de la rénovation augmente d'autant, ou la valeur de votre appartement ou de votre studio va baisser d'autant. Donc on essaye de réserver les isolations par l'intérieur pour des logements de taille plus importante.
Tout le monde n'a pas le choix. Je me fais la porte-parole d'un de nos auditeurs qui m'a écrit ce week-end. Je vous soumets son cas parce que je trouve qu'il illustre tout à fait ce qu'on est en train de se dire. Il a acheté un appartement dans le 18e à Paris, enfin un appartement, une pièce de 25 mètres carrés. Voilà, il est en DPEG. Aujourd'hui, pour faire ses travaux d'isolation, il dépend de la copro. Et donc, à la fin de l'année, il ne pourra plus louer son appartement. Et ces gens-là, qui ont parfois une traite à rembourser, pas une rente, du coup, puisqu'ils sont endettés, et bien ils sont coincés. Ils ne peuvent pas tout à fait vendre leur appartement parce qu'ils vont le vendre à perte. Ils ont aussi souvent investi pour des raisons qui les regardent, mais qui sont généralement un peu bien pensées. Et tous ces gens-là, mais c'est une réalité quand même. C'est une partie des gens que vous avez audités. C'est un vrai dilemme.
Alors oui, mais je l'invite à nous appeler parce que normalement, on doit pouvoir lui faire gagner deux lettres de DPE sans justement faire appel à la copropriété. Tous les gestes que je vous ai cités sont des gestes qu'on peut faire, à part les fenêtres où parfois il faut faire appel aux architectes des bâtiments de France, etc. Mais sont des gestes qu'on peut faire et que le propriétaire peut décider tout seul. Donc normalement, on devrait pouvoir lui faire gagner deux lettres de DPE. Si on n'y arrive pas, et qu'on arrive à démontrer qu'on n'y arrive pas, on pourra lui faire une attestation pour qu'il puisse continuer à louer en indiquant que c'est effectivement du ressort de la copropriété et que lui a fait par contre tout ce qu'il devait faire de son côté ou tout ce qu'il ne pouvait pas faire et donc ainsi il va pouvoir continuer à louer. Ça fait partie des rares exceptions pour pouvoir continuer à louer un G en 2025.
Cette attestation, vous dites, c'est presque un laissez-passer en fait.
Oui. Tout à fait, et ça fonctionne, hein. Enfin ça va fonctionner. Ouais.
Bon, voilà, une des pistes peut-être pour les gens qui seraient dans la situation de notre auditeur. Arnaud, qu'est-ce qu'on peut souhaiter, en tout cas, sans, comment dire, je voudrais rassurer un peu nos auditeurs, nous dire voilà, que ce chantier du DPE, l'air de rien, ça avance, il infuse dans les esprits des propriétaires bailleurs. Pour ceux et celles qui nous écoutent, qui sont dans cette situation de devoir rénover un appartement pour continuer à le louer, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil?
Il faut engager la rénovation, c'est extrêmement important pour continuer à valoriser son patrimoine. C'est sûr que c'est un moment délicat, parce que quand il faut sortir de l'argent, c'est pas simple. Donc nous, on travaille aussi pour aller chercher des aides ou des prêts financiers pour aider au reste à charge. Mais globalement, et en se projetant un petit peu dans l'avenir, ça va valoriser le patrimoine locatif, et donc ça va donner une valeur supérieure pour tous ces investisseurs. Donc ça, c'est pour ceux qui sont déjà propriétaires. Et ceux qui veulent investir, et ben forcément, en incluant le coût des travaux, en négociant le prix pour ceux qui veulent absolument vendre leur logement F ou G, il y a aussi des belles opportunités pour les propriétaires bailleurs.
Voilà ce qu'on pouvait dire, en tout cas, en s'arrêtant un petit peu sur le DPE, sur le coût des gestes, les aides qu'on peut encore avoir, et puis voilà la logique dans laquelle être pour pouvoir peut-être gagner ou perdre deux lettres de DPE. Merci beaucoup Arnaud Accart d'avoir partagé vos données, celles que vous avez récoltées, et puis travaillé avec l'équipe d'Immo Direct. Vous reviendrez nous voir dans quelques semaines.
Merci,
avec
Lorraine.
J'espère d'autres, en tout cas, je sais pas des bonnes nouvelles, mais en tout cas des conseils pratiques sur ce qu'on peut faire, combien ça coûte, puisque on y est, le chantier est lancé, vous nous l'avez dit. Merci cher Arnaud. Nous allons faire un tout petit point d'actualité. Je voudrais revenir sur la hausse du cours de l'or dont on a pas mal parlé depuis le début de l'émission. L'or qui se traite autour de 2 355 $ l'once à l'heure où on se parle. Ce week-end, l'économiste David Rosenberg a déclaré que l'or pouvait facilement encore prendre 30%. Plus 22% en 6 mois, voilà ce qu'il a pris l'or, toujours en dollars. Les achats des banques centrales expliquent ce mouvement, mais certains y voient aussi, vous le savez, le signe d'une défiance vis-à-vis de la dette publique américaine. C'est une semaine placée sous le signe de la macroéconomie, notamment dans Tout pour investir, PPI, minute du dernier FOMC meeting, jobless claim côté Amérique, et puis la réunion de la Banque centrale européenne qu'on va évidemment suivre en direct ce jeudi sur notre antenne. Et une question enfin peut-être répondue, les décideurs politiques européens vont-ils suivre une voie différente de celle de leurs homologues américains? Et puis on finit avec un mot de pétrole. Je vous renvoie à un article de Bloomberg qui date de ce matin, qui estime, enfin dans cet article, on estime qu'il est plus que probable que le baril retourne au-dessus des $100. À l'heure où on se parle, le Brent est à $90, le WTI autour de $86. La décision récente du Mexique de réduire ses exportations de brut aggrave la situation mondiale et incite les raffineurs américains, l'Amérique qui est le plus grand producteur de pétrole au monde, et bien à consommer davantage de barils nationaux. Je vous retrouve après une rapide publicité. Nous allons nous occuper de vos impôts avec notre fiscaliste, répondre à quelques-unes de vos questions. En tout cas, vous donner le calendrier fiscal des prochaines semaines. Et puis, on parlera d'art contemporain en fin d'émission avec la maison Arcurial. À tout de suite.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
On répond à vos questions tous les jours dans Tout pour investir. On s'occupe ce jour de vos impôts. Vous le savez, cette semaine, c'est le début de la campagne des impôts 2024. Et pour nous éclairer et y voir plus clair dans le calendrier, c'est un fiscaliste qui est avec nous, l'avocat Olivier Jeannoret. Bonjour Olivier.
Bonjour Lorraine.
Du cabinet Arsène, vous êtes avec nous pour répondre très simplement à cette question. Quand allons-nous devoir déclarer nos impôts?
Écoutez, le compte à rebours est prêt à être lancé, puisque dans 60 heures à peu près, vos espaces sécurisés vont être ouverts. Donc le 11 avril débute cette campagne. Et cette campagne, elle va s'étaler comme d'habitude jusqu'à début juin, puisque en fonction de votre département, alors ça c'est un peu un fruit de l'histoire, hein, ouais. Le jeu des départements, en fonction de votre département, bah, vous aurez plus ou moins de temps pour faire votre déclaration. Les premiers départements, ce seront le 23 mai pour les départements 1 à 19. Les départements 20 à 54, ça sera le 30 mai. Et enfin, les derniers, de 55 à 976 exactement, jusqu'au 6 juin. Sachant qu'ici, on parle des déclarations via votre espace sécurisé, via Internet. Si vous êtes encore en déclaration papier, ce qui normalement ne devrait plus être le cas pour la grande majorité d'entre vous, c'est le 21 mai à minuit. Donc attention, on a beaucoup moins de temps quand on n'est pas digitalisé.
Mais ça n'a quand même aucun sens, ce calendrier échelonné pour les départements à l'heure des déclarations numériques.
On pourrait imaginer qu'à l'époque, c'était une question de poste, mais aujourd'hui, on est bien d'accord. À part l'utilisation massive les dernières heures,
oui,
qu'on peut rencontrer, les bugs qui peuvent exister, d'ailleurs, on l'a souvent au début de la campagne, c'est-à-dire que le 11 avril est souvent décalé de quelques heures ou de quelques jours en fonction de l'accessibilité.
Ouais.
Mais voilà, cette fin de délai est le fruit de l'histoire. On est nombreux à vouloir quand même une certaine homogénéité en la matière. Naturellement, en allant chercher la date plutôt du 6 juin que celle du 23 mai, parce que y a quand même beaucoup de travail à accomplir pendant cette période.
Voilà, ne pas trop charger les serveurs du site des impôts. Bon, très concrètement, il y a un agenda de déclaration à avoir en tête. Vous allez nous l'apprendre ou nous le rappeler. Quelles sont les dates clés que vous voulez nous signaler aujourd'hui, cher Olivier?
Alors, les dates clés, au-delà du 11 avril, au-delà des quelques dates de fin mai, il faut imaginer ici, c'est qu'on a parfois, en fonction de ses activités, un besoin d'anticipation, puisque lorsque vous avez des revenus professionnels à déclarer, des SCI, des revenus de SCI à déclarer, on est au 3 mai, avec une extension de 15 jours si on opère par télédéclaration. Mais donc voilà, c'est par anticipation à la déclaration de revenus elle-même qui devra reprendre les chiffres que vous aurez naturellement intégrés dans les précédentes déclarations qu'il faudra avoir réalisées précédemment. Donc voilà, on est vraiment dans ce momentum entre début avril et début juin. Naturellement, plus vous y prenez tôt, moins vous ferez d'erreurs.
Les erreurs, elles sont multipliées par évidemment le nombre d'activités que vous pouvez avoir ou l'origine géographique de vos activités. On va passer cela en revue. On va essayer de lister les bêtises à pas faire.
Alors, les bêtises, heureusement, avec le temps, on en fait de moins en moins. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette intelligence artificielle dont on parle régulièrement, qui est là pour vous rappeler un certain nombre de revenus que vous avez déjà perçus.
On aimerait bien un peu plus d'hier encore dans notre déclaration.
Voilà, et probablement, si vous avez une déclaration assez simple, parfois vous n'avez plus rien à faire. Donc ça, c'est une bonne chose. Si dans un certain aspect, c'est une bonne chose, dans l'aspect plus psychologique autour de cette déclaration et cette volonté de contribuer aux charges publiques, quelque part, on s'y perd un peu. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de données qui sont d'ores et déjà dans votre déclaration, que ce soit vos revenus, vos salaires, votre employeur les a télédéclarés, que ce soit des revenus passifs, des dividendes, des intérêts qui ont été télédéclarés par votre établissement bancaire. Donc voilà, on a quand même un nombre de données importantes, nécessairement quand on est sur des revenus fonciers, là vous avez tout à faire. Lorsqu'on est des revenus étrangers, de la même façon vous avez tout à faire, puisque les télétransmissions ne se font pas ici. Là où c'est plus facile aussi, c'est que l'année dernière on avait notre déclaration des biens qui était une nouveauté. On pensait que c'était pour justement être le pendant de la fin de la taxe d'habitation. Ouais. En réalité, on se rend compte que c'est pour aider quand même l'État à venir rehausser un certain nombre d'assiettes soumises à d'autres impôts. La taxe foncière en fait partie. Et donc voilà. Et cette déclaration-là, s'il n'y a pas de changement, il n'y a rien à faire. Donc l'année dernière, ça a été vraiment une grande difficulté. Il y a eu de nombreux reports dans la capacité de déclarer ces biens immobiliers. Cette année, vous n'avez rien à faire si cela n'a pas changé. Se dire quoi ? Se dire si vous êtes toujours propriétaire des mêmes biens, vous n'avez rien vendu, rien acheté. Et si vous êtes propriétaire et que vous louez ce bien-là et que votre locataire est resté le même, vous n'avez rien à faire non plus. Sinon, il n'y a que ces petits changements à réaliser.
Vous êtes presque en train de rendre la déclaration d'impôt sympathique cette année.
L'administration fiscale, Bercy, essaye de faire en sorte que ce soit le moins pénible possible, en effet. Moi, j'y suis pour rien.
Bon. C'est bien de dire les choses qui fonctionnent bien, c'est vrai, parce qu'on est souvent critique de beaucoup de choses, mais en l'occurrence, vous nous rappelez, vous nous apprenez que cette déclaration, elle s'automatise, elle se digitalise, et que donc, du coup, on a un peu moins de travail, de fourmis à faire. Néanmoins, quand on détient des comptes à l'étranger, et ça concerne beaucoup de nos auditeurs qui sont des investisseurs en crypto-monnaie, je pense à eux, mais aussi à certains d'entre vous qui nous écoutez, qui avaient des revenus de l'étranger, vigilance.
Vigilance, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on est résident fiscal de France, on doit payer ses impôts sur ses revenus mondiaux. Donc les revenus perçus en France, naturellement, mais aussi ceux perçus à l'étranger. Donc que ce soit des revenus locatifs, des revenus de passifs, dividendes, plus-values, etc., sur des actions étrangères, tout doit intégrer votre déclaration fiscale. Ce qu'on sait par ailleurs, c'est qu'il y a des déclarations spécifiques qui permettent d'éviter la fraude fiscale. C'est ça l'objectif, donc elles sont tout à fait louables. Et notamment, l'obligation de déclarer ses comptes qu'on détient à l'étranger, l'obligation de déclarer aussi les comptes de crypto-actifs qu'on peut détenir à l'étranger. Pour les comptes bancaires, c'est assez simple aujourd'hui, parce que ce qui existait déjà avant est quand même repris d'une année sur l'autre.
Oui.
Pareil pour les crypto-actifs, mais les crypto-actifs étant plus récents, il y a moins de... on est moins complet en la matière aujourd'hui, donc ça demande plus de travail. Et puis surtout, les informations qu'on obtient de nos fournisseurs, de nos prestataires, sont souvent moins complètes que celles qu'on obtient des établissements financiers.
On pense à tous ceux qui utilisent des providers de cartes bancaires basés à l'étranger. Je pense notamment à Envolute ou N26. Et ça aussi, ça s'est amélioré d'une année sur l'autre ?
Alors ça s'est amélioré parce que la communication s'est améliorée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que ces comptes-là ne sont pas hébergés en France. Et par conséquent, on le sait davantage qu'il faut bien les intégrer dans sa déclaration fiscale. Après, je vous rassure, d'expérience, quand on a un N26 qui n'est pas déclaré, on arrive à régulariser ça sans perdre des fracas avec l'administration fiscale. Donc, encore une fois, c'est pas parce qu'on l'a oublié involontairement, c'est un vrai oubli l'année dernière, qu'il faut continuer dans cet oubli.
Bon, les plus grosses bêtises que vous avez observées l'année dernière et que en 2024, on n'a plus le droit de faire.
Alors, je sais pas si c'est. Alors, les plus grosses bêtises, c'est d'oublier un revenu. On sait très bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas de revenu qui n'intègre pas notre déclaration. Même quand il s'agit d'un report à titre informatif, vous faites une plus-value immobilière. L'impôt, il est prélevé par le notaire, il est directement versé. Il faut quand même l'intégrer dans sa déclaration fiscale parce que ça peut avoir un effet de bord sur un certain nombre de taux appliqués, d'avantages qu'on peut retirer liés à notre situation patrimoniale et en termes de revenus. Donc, après, les plus grosses erreurs, mais qui sont involontaires, qu'on remarque, c'est les oublis dans les reports. Vous verrez, dans votre déclaration, il y a ce qu'on appelle la 2042, qui est la déclaration principale, qui doit normalement tout synthétiser. Mais à côté, vous pouvez avoir plusieurs autres déclarations.
2042 avec beaucoup de lettres.
Avec beaucoup de lettres, des 2047, des 3916. On a vraiment un jeu en la matière. On peut faire du bingo sans aucune difficulté. Et voilà. Et souvent, le report se fait automatiquement si on coche une case. Et si on oublie de la cocher, eh ben on se retrouve à ne pas avoir ce revenu dans sa déclaration de synthèse, en quelque sorte. Et donc, que ces revenus, potentiellement, ne sont pas soumis à l'impôt. Donc, ce sont des erreurs qu'on arrive à corriger de la même façon, mais qui impliquent parfois, régulièrement plutôt, des contrôles fiscaux, puisque l'ordinateur de l'administration fiscale s'en rend compte de cette erreur.
Au-delà du calendrier que vous êtes en train de nous apprendre ou nous réapprendre, ces dates limites pour faire ces déclarations de revenus en ligne, et puis, voilà, les points d'attention qu'il faut avoir en tête, il y a cet état d'esprit dans lequel les Français se mettent au moment de faire leur déclaration d'impôt. On devient très critique, tout d'un coup, ou encore plus, de l'usage qui est fait de nos impôts. Le gouvernement est en train de serrer les vis sur beaucoup de dépenses, cherche de l'argent aussi. Le consentement à l'impôt de nous, Français, va-t-il être plus difficile cette année ?
Alors, ce qui est certain, c'est que le pilier... un des piliers de notre société, c'est l'impôt. Et le consentement à l'impôt, c'est le fait d'y aller de façon délibérée et de ne pas avoir ce sentiment d'expropriation. Et naturellement, cette période-là, elle est très importante quand même d'un point de vue philosophique, parce que c'est l'acceptation par le contribuable de payer un impôt pour financer les charges publiques. Sur ce consentement à l'impôt, régulièrement, mais plutôt en juin, en juillet, donc postérieurement à cette période, il y a des études qui sont faites. Le point positif, c'est que ces études montrent une acclimatation de plus en plus forte année après année. C'est-à-dire qu'en 10 ans, les Français trouvent la fiscalité de moins en moins excessive. Donc ça veut dire qu'ils étaient 55% l'année dernière, ils étaient 10 points de plus il y a 10 ans. Donc ça veut dire
qu'ils payaient trop d'impôts.
Exactement. Donc aujourd'hui, on a quand même plus d'un Français sur deux qui trouve que l'impôt est excessif, mais c'est moins que il y a 10 ans. Donc ça veut dire quand même que la politique du président Macron, qui a été celle d'aller choisir une stabilité plus forte, parce que si vous vous souvenez, depuis le premier quinquennat, il y a une loi très importante au début qui a vraiment fait évoluer la fiscalité du patrimoine, mais depuis, très peu de choses.
Visibilité, stabilité, ça donne plus de confiance, quoi.
Ça donne confiance, et quelque part, on comprend mieux pourquoi on paye de l'impôt, même si, encore une fois, beaucoup le trouvent excessif, beaucoup considèrent qu'ils ne reçoivent pas suffisamment par rapport à ce qu'ils contribuent. Et naturellement, en fonction de la nature des impôts, la réponse n'est pas la même. L'IFI, par exemple, 82% des Français la trouvent totalement justifiée. C'est logique, parce que plus de 82% des Français ne la payent pas.
Oui.
Quand on ne paye pas, on trouve l'impôt. Et quand c'est les autres qui le payent, on le trouve l'impôt beaucoup plus juste, nécessairement. Donc voilà. Donc c'est vrai que dans le contexte dans lequel on est, où on voit, ou en tout cas on ressent qu'il va y avoir des évolutions, potentiellement une première loi de finances rectificative cet été, ou à la rentrée, ce qui ne serait pas arrivé depuis le début des quinquennats du président Macron, changerait quand même la donne quant à l'état d'esprit que les Français pourront avoir face à leur déclaration.
55% des Français qui pensent que l'impôt est excessif, c'est 10 points de moins qu'il y a 10 ans. Est-ce que la bonne question, ça serait pas plutôt, est-ce que nos impôts sont bien utilisés ?
Exactement. Et d'ailleurs, c'est le pendant de ce que beaucoup disent. Aujourd'hui, on a des taux d'impôt qui ne peuvent quasiment pas être augmentés. Je laisse le prélèvement forfaitaire unique de côté, où on a un taux d'impôt charge sociale compris à 30%. Donc on voit bien la facilité d'augmenter ce taux-là. Mais à côté de ça, tous les revenus, on va dire, du quotidien, c'est 45% de taux marginal d'imposition. Il y a une contribution exceptionnelle sur les revenus qui n'a rien d'exceptionnel parce qu'elle date de plusieurs présidents maintenant, qui nous permet d'atteindre un taux de 49%. Donc on voit bien qu'avec de tels taux, il est difficile d'aller chercher davantage d'imposition, sur le patrimoine lui-même. À côté de ça, on voit par exemple les impôts fonciers ont été multipliés par deux en quelques années par justement la revalorisation des bases foncières. Donc il y a quand même une augmentation des impôts, quoi qu'on en dise, même si les taux facialement n'évoluent pas, mais il est très difficile de les faire évoluer à la hausse aujourd'hui. Donc très probablement, il y a deux secteurs sur lesquels on peut travailler. Les contrôles fiscaux, et c'est ce que fait l'administration fiscale, les contrôles fiscaux augmentent significativement parce que c'est une rentrée d'argent supplémentaire et l'utilisation des impôts qui sont levés, naturellement, les charges, les dépenses sont aussi une source d'économie réelle.
Voilà, plus d'efficacité dans l'utilisation de nos impôts, dans la collecte de l'impôt aussi. Merci beaucoup, Olivier, notre voix fiscale en cette semaine de démarrage de la déclaration des revenus en ligne et puis en papier pour certains d'entre vous qui le faites encore en papier. Vous avez le droit, mais attention, il faut cocher plusieurs cases. Notamment, prouver que vous n'avez pas Internet chez vous.
Ou d'être pas capable d'utiliser Internet, ce qui est encore possible.
Cette chronique pour être gouverne est à retrouver en podcast et en replay sur notre site et l'application BFM Business. On retrouvera Olivier dans un mois. On va réfléchir sur quel sujet on va faire travailler notre fiscaliste. Merci beaucoup, Olivier Jeanneret et l'équipe de chez Arsène d'avoir été avec nous. Et il vous reste peut-être de l'argent avant cette déclaration d'impôt. Et vous avez envie d'investir dans la culture, dans l'art contemporain, notamment le street art. Eh bien, c'est une idée d'investissement à suivre. La maison Arcurial arrive pour vous éclairer sur ce secteur qui était très très niche et qui aujourd'hui est un véritable pilier de notre art français. À tout de suite.
Tout pour investir. Investir autrement.
Investir autrement, peut-être dans l'art contemporain. Nous allons parler de street art avec vous, Arnaud Olivier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes commissaire-priseur et directeur du département Urban and Contemporary Art. Art de la rue et art contemporain, on va le dire comme
exactement,
ça. À la maison Arcurial. On va réfléchir avec vous sur comment investir dans l'urban art. D'abord, on va se dire, on va parler un petit peu d'histoire. On va se dire qu'on est parti d'un marché ultra niche à aujourd'hui, eh bien, un secteur officiel de l'art contemporain. Expliquez-nous cette histoire.
En fait, effectivement, nous, on a créé chez Arcurial, vers 2006, ce domaine sur le marché des ventes aux enchères. Et à l'époque, on était dans un marché totalement de niche, avec un marché peu développé, aussi bien au niveau des galeries que sur le second marché, même si beaucoup de créateurs travaillaient dans la rue, que ce soit dans l'ordre du graffiti, du pochoir, ou ensuite toutes les démarches comme Invader, avec ces mosaïques qui ont envahi la planète entière. Et progressivement, en fait, les collectionneurs d'art contemporain, grâce aussi au travail qu'on a effectué au fil des années, ont découvert ce domaine, ont commencé à acheter. Et évidemment, de plus en plus de collectionneurs s'y intéressant, les prix ont monté. Et pour en faire un domaine plus officiel, à tel point que cette année, un élément important, le Centre Pompidou a décidé de lancer une collection dans ce domaine. L'institution a été absente aux premières années. Maintenant, ça y est, les choses s'institutionnalisent. Et ça, c'est formidable, aussi bien pour le marché que pour les collectionneurs qui veulent se lancer et qui se sont déjà lancés dans ce domaine.
Un secteur qui s'est institutionnalisé. En introduction d'émission, je faisais référence à la French Touch.
Oui.
On utilise régulièrement dans le milieu de la musique. On pense évidemment au Daft Punk, mais ce terme de French Touch, il s'applique également au milieu de l'art contemporain. Expliquez-nous.
C'est un des segments de la vente qui aura lieu le 17 avril. On l'a intitulé French Touch, effectivement, un petit clin d'œil à cette scène musicale, mais aussi parce qu'effectivement, il y a des liens assez évidents, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la scène française du street art, de l'art urbain, est extrêmement active, elle est extrêmement recherchée au niveau international. Un peu comme les Daft Punk, un artiste comme Invader ou comme JR, par exemple, sont des artistes qui font les beaux jours de la planète entière, qui ont des articles partout, des expositions. On parlait d'Invader qui sera très en avant dans cette vente. Cette année-là, il a une énorme exposition à Paris qui a effectivement une résonance internationale. Et puis le fait d'avoir envahi l'espace international global sur la planète lui donne une très grande visibilité. D'ailleurs, il fait aussi un jeu qui s'appelle Flash Invader qui permet à chacun de flasher toutes les interventions urbaines de l'artiste. Et vous avez aussi bien des Américains, des Français, des Coréens que des Japonais qui s'adonnent à ce jeu.
C'est un peu à la recherche du Pokémon, mais version poulpe.
Exactement, oui. Version Invader, Space Invader.
On parle beaucoup d'Invader, on parle également de Banksy, de JR. Expliquez-nous en quelques mots ces trois artistes.
Alors, Banksy, c'est évidemment l'artiste, un des artistes les plus connus, aussi bien dans ses interventions urbaines, ses happenings. On se souvient de l'œuvre qui s'était déchiquetée lors d'une vente aux enchères. Et c'est un artiste qui est justement là toujours pour donner un coup de pied dans l'institution, c'est-à-dire surprendre le public. Et ces grands pochoirs qui sont apparus sur les murs du monde entier sont toujours là pour attirer le regard, pour critiquer, pour dénoncer. Il y a souvent ça sur l'art urbain, c'est des artistes qui viennent pour attirer le regard, et c'est ça que les collectionneurs aiment, c'est-à-dire qu'aussi bien vous avez les œuvres sur le terrain qui se donnent à un grand public, et en parallèle des collectionneurs qui peuvent acheter les œuvres de ces artistes. JR, c'est cet artiste aussi qui a collé ses grandes photographies sur les murs du monde entier et qui réalise aujourd'hui des tirages photographiques qui permettent aux collectionneurs de les faire rentrer dans leur espace domestique.
Bon, il y a un débat sur Invader. Est-ce qu'on parle de poulpe ou est-ce qu'on parle de vaisseau spatial? En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas Invader, c'est des petits logos violets qu'on voit beaucoup dans Paris encore.
Alors, c'est plus que des logos. Expliquez. C'est vraiment influencé par un jeu japonais de la fin des années 70. Invader est un grand amateur de jeux, et le jeu est toujours présent dans son travail. Et ces fameux Space Invader, peut-être que vous y avez également joué. C'est un des premiers jeux sur les consoles, et qui a été repris par l'artiste pour en faire une sorte de logotype qu'on retrouve dans toutes ses œuvres. Ensuite, il a décliné les autres personnages de jeux vidéo et d'autres sujets. En tout cas, ce qui est intéressant avec Invader, c'est un vrai artiste conceptuel de la scène urbaine. C'est-à-dire qu'il réalise ses mosaïques sur le mur, mais c'est évidemment pas les mosaïques du mur que nous vendons. Nous vendons ce qu'on appelle un alias, et on en a deux dans la vente du 17 avril. C'est-à-dire une version domestique. C'est exactement la même chose que sur les murs, mais réalisée pour pouvoir se l'accaparer et en quelque sorte pouvoir le collectionner.
Vous nous parlez de pochoirs, de graffiti, de mosaïque pour ce qui concerne Invader. Il y a en tout cas quelque chose de commun à ces artistes, c'est une manière de créer, certes, mais surtout strictement corrélé à cette création, une manière de faire le buzz. Comment on s'approprie un petit morceau de buzz quand on veut investir, miser sur cet art de rue?
Le buzz se fait parce qu'effectivement, c'est des artistes qui ont une visibilité particulière. En fait, pour s'accaparer une partie de ce buzz, déjà, il faut suivre effectivement tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tous ces artistes sont extrêmement connectés, et les collectionneurs aussi sont connectés. Et puis surtout, venir nous voir, c'est-à-dire qu'on est une partie prenante de ce buzz. Et chez Arcurial, on réalise notamment ces ventes très spécialisées. L'exposition commence samedi prochain et il va se passer plein de choses pendant l'exposition, donc venez tous nous voir. On vous donnera également des conseils sur des artistes peut-être moins connus sur lesquels il faut miser, puisque c'est aussi ça, des secteurs comme l'art contemporain actuel, c'est d'essayer d'être un peu pionnier aussi en termes d'achat et d'acquisition.
Donnez-nous quelques noms d'artistes qui sont encore sous le radar.
Je pense à un artiste qui vient de la scène graffiti parisienne, qui s'appelle Opar, qui est un jeune artiste qui vraiment aujourd'hui est en train de rencontrer un succès de plus en plus grandissant. Un autre artiste aujourd'hui qui fait vraiment pour le coup le buzz, parce qu'il est complètement invisible, un peu à la Banksy, et qui est français, qui s'appelle Dramp, et dont le travail est vraiment aujourd'hui recherché. Les prix ont augmenté ces dernières années, mais je pense qu'on n'est qu'au début d'un phénomène qui va devenir de plus en plus important.
Invader, Banksy, JR, Opar,
Dran.
Voilà, quelques noms d'artistes à suivre. Une dernière question pour vous, Arnaud. Vous savez, on parle d'argent dans cette émission. On parle souvent de comment rentrer, comment devenir investisseur. On comprend qu'il y a peut-être un peu moins de timidité à l'entrée, au moins dans les galeries. Peut-être, j'imagine qu'on rentre peut-être plus facilement dans une galerie d'art contemporain quand on a grandi dans un milieu urbain que dans une galerie d'art plus classique. Quel est l'investissement à partir duquel on peut devenir collectionneur?
Je crois qu'on peut aujourd'hui commencer la collection avec des petits montants, quelques centaines d'euros. Je pense à ce secteur de l'art urbain, il y a beaucoup d'éditions, et les éditions aujourd'hui aussi, des éditions achetées à 500 €, elles peuvent se revendre 5 000 € assez rapidement. Donc il faut être il faut venir nous voir, regarder, être curieux et ne pas hésiter à pousser les portes. Et à l'hôtel Marcel Dassault sur le rond-point des Champs-Élysées, on est là pour ça.
Voilà, l'invitation est lancée pour vous, chers auditeurs, auditrices. Merci beaucoup, Arnaud Olive, commissaire-priseur et directeur du département Urban Arts chez Arcurial. Nous vous précisons que cette séquence est à retrouver en podcast et en replay comme l'ensemble des séquences d'ici quelques minutes. C'est la fin de Tout pour investir. Merci à toute l'équipe pour la préparation. Merci à vous toutes et tous pour vos messages. On n'a pas pu répondre à tout le monde, mais vous le savez, ces questions, elles viennent alimenter notre boîte à questions. Si vous avez attrapé l'émission en cours, vous savez où la retrouver sur notre site web et l'application. Demain, nous serons là dès 10h. On va parler de où placer vos primes d'intéressement et de participation. Conseil d'hygiène financière si vous faites partie des salariés qui bénéficient de ces dispositifs. Et puis c'est mardi, nous ferons le point sur les petites et moyennes valeurs. Avant cela, il y a avec vous, qui démarre dans moins de 5 minutes, Sandra Gandoin est revenue. Bonjour Sandra.
Bonjour Lorraine, ravie d'être revenue.
Ravie de vous accueillir à nouveau. Vous prenez la manette dans moins de 5 minutes. Quel est le programme du jour?
On va parler de comment attirer les jeunes dans mon entreprise, de conflits intergénérationnels. On va parler aussi d'horaires décalés et de santé au travail et de toutes les questions que vous allez nous poser à notre adresse avec vous à bfmbusiness.fr, sur notre QR code, sur nos lives, notamment sur LinkedIn qui va bientôt démarrer. On est là pour répondre à toutes vos questions, patrons, indépendants, salariés. Nos experts sont là pour vous servir.
Voilà le programme. C'est aussi Amaury de Tonquédec qui prend les manettes de notre antenne, un peu comme Invader, à partir de 15h, 21h30. Quel est le programme du jour?
Eh bien, on va parler de la Ligue pour la sécurité du Web3 qui se lance aujourd'hui. Donc pour vous, investisseurs ou utilisateurs du Web3, on va tout vous dire sur en quoi ça peut vous servir, quel service ça peut vous rendre et comment vous protéger en cas de hack ou d'abus dans cet écosystème. Et puis on réagira aux déclarations de Cathy Wood, célèbre investisseuse américaine, notamment PDG de ARK Invest, qui dit que le Bitcoin est une protection contre les dévaluations monétaires. Donc on en parlera aussi tout à l'heure à 15h.
Cathy Wood, l'oracle du Bitcoin. Bitcoin qui se négocie autour de 72 000 $, 151 en dollars. Voilà, est-ce que ça passera les 73 000 aujourd'hui? On verra ça demain.
Aujourd'hui, je ne sais pas, mais bientôt c'est possible.
Amaury de Tonquédec et toute l'équipe de BFM Crypto, le club à 15h, 21h30 et n'importe quelle heure en podcast. Je vous dis à demain.
Tout pour investir sur BFM Business.